la loi sur la laïcité, le projet de loi 21 a été adopté hier soir autour de 10h30, 22h30 hier soir. Tout de suite, Simon-Jolin Barrette, le ministre, a traversé la rue pour aller chez le lieutenant-gouverneur et faire estampiller la loi immédiatement. Donc, elle est en vigueur, cette loi-là, mais aussitôt acceptée, aussitôt adoptée, et aussitôt contesté, il y a des avocats qui actuellement même sont à préparer un recours devant les tribunaux pour essayer d'invalider cette loi. Maître Julius Gray, qui est avocat spécialisé en liberté individuelle, est avec nous. Bonjour, Maître Gray.
Bonjour.
Alors, bon, la loi actuelle, Simon-Jolin Barrette a dit ce matin, a répété que, bon, d'abord, il allait défendre sa loi, mais selon lui, parce qu'on a recours à la clause dérogatoire, elle n'est pas contestable devant les tribunaux. Êtes-vous d'accord avec ça?
Non, pas tout à fait. Certainement pas en droit international. Écoutez, je ne suis pas en train de préparer un recours, mais je pense qu'il y a un recours qui, inévitablement, va être intenté. Et certainement, si on prend comme modèle ce qui est arrivé avec la loi 78, l'affichage bilingue, ouais. M. Bourassa qui a invoqué la clause nonobstant, les tribunaux, le tribunal des droits de l'homme des Nations Unies a cassé cette loi et le Québec a accepté la décision internationale. À part ça, il y a certains avocats, je sais que c'est difficile comme argument, je ne me prononce pas, mais il y a certains avocats qui pensent qu'il y a des parties de la loi qui pourraient néanmoins être contestées, même à l'intérieur au Québec, malgré la clause nonobstant. C'est dans la loi, dans l'arrêt Ford, c'est celui d'affichage bilingue, que la Cour suprême a dit que probablement pas que la clause nonobstant empêche une contestation de son application. Cependant, il y a des avocats, je ne voudrais pas contredire sans faire la recherche, qui pensent qu'il y a un argument possible. Mais qu'il existe ou non un argument devant les tribunaux québécois, il existe certainement une possibilité sérieuse où il y a de bonnes raisons pour être relativement optimiste en droit international.
Bon, mais en droit international, est-ce que les décisions, par exemple, que pourrait prendre le tribunal de l'ONU, est-ce que c'est exécutoire au Québec ou ça fait simplement donner une mauvaise réputation au Québec avec l'adoption d'une loi comme celle-là?
Écoutez, ce n'est pas exécutoire. Donc c'est toujours le problème avec le droit international, n'est-ce pas? Ouais. Le droit international, il n'y a pas de huissiers internationaux. Cela dit, la dernière fois, et c'était une loi aussi contestée et aussi importante pour certains, la loi 101 et 178, le Québec a obtempéré. C'est parce qu'on ne veut pas être un État connu, être connu comme un État qui ne respecte pas les décisions des tribunaux. Ouais. Le Canada a signé les protocoles des Nations Unies et donc nous devons en principe respecter les jugements. Je trouve difficile à imaginer une situation où le Québec dirait non, je ne me conforme pas. Surtout, c'est certain que pour la loi 101, il y avait, disons, un contenu émotif plus grand qu'ici.
Bon, le recours à la clause dérogatoire, certains pensent que c'est peut-être la faiblesse, en fait, de la loi sur la laïcité, en ce sens que il y a des limites quand même à l'utilisation de la clause dérogatoire quand on parle notamment de la liberté, de l'égalité entre les hommes et les femmes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Oui, il y a des limites. On pourrait prétendre que cette loi-là, puisque statistiquement, il y a beaucoup plus de femmes musulmanes affectées que d'hommes sikhs, par exemple, qu'il y a un certain niveau de discrimination. Maintenant, est-ce que la Cour va accepter cela ou non? Je ne sais pas, mais c'est un argument soutenable, un argument sérieux qui se basera sur les statistiques, combien de gens sont affectés. Et il y a relativement peu de juifs qui portent un kippa, et c'est des hommes. Il y a, chez les sikhs, c'est les deux qui portent, mais surtout des hommes, mais quand même, une femme peut être affectée par cela. Mais chez les musulmans, c'est les femmes surtout qui sera affecté, on pourra démontrer que c'est vraiment 70-80% de l'effet de cette loi. Un argument soutenable.
Oui, mais... parce que c'est vraiment l'argument qu'on amène. On dit, par exemple, si on applique cette loi-là aux enseignantes et qu'elles n'ont pas le droit de porter, par exemple, un voile, ben directement, c'est les femmes qui sont visées davantage que les hommes.
C'est les femmes qui sont visées. C'est sûr, chez les Juifs, c'est plutôt les hommes, mais c'est les femmes qui sont visées. Statistiquement, ça va être les femmes. Il y a également un argument à l'effet que dans les écoles de langue anglaise, la Cour suprême a déjà dit que la section 23 de la charte oblige le gouvernement à donner une certaine autonomie aux anglophones, et donc l'argument serait présenté qu'on ne peut pas forcer les écoles anglaises à choisir les enseignantes selon les règles vestimentaires. Un autre argument où la clause nonobstant ne serait pas nécessairement efficace. Ce sont des possibilités, je ne me prononce pas dans un sens ou dans l'autre, mais en droit international, les chances sont bonnes. Bon. C'est vraiment toute la Déclaration universelle des droits et le protocole spécial qui s'applique, et il est assez évident que cette loi est en violation.
Bon. L'applicabilité de la loi maintenant, là vous découragez tout le monde à ne pas la respecter. Là, on ne peut pas ne pas respecter cette loi-là maintenant qu'elle est passée devant le tribunal. Ce seront les tribunaux qui vont décider si elle est applicable ou pas, mais on ne peut pas se soustraire à cette loi-là, n'est-ce pas?
C'est certain que c'est les tribunaux qui ont préséance. Maintenant, on a déjà eu ce débat sur la désobéissance. Dans certains cas, les individus désobéissent. Moi, je n'ai jamais dit qu'ils devraient ou ne devraient pas. Ouais. Je constate que dans la philosophie de droit, la désobéissance demeure un moyen possible dans certains cas sur des questions de conscience où un individu déciderait d'agir. Je ne fais pas la promotion de la désobéissance, et au contraire, je pense que tous les autres moyens devraient être pris. Mais je pense que les gouvernements qui adoptent des lois qui peuvent affecter la conscience des individus devraient comprendre que dans certains cas, les gens n'obéiront pas. Ouais. Certains gens n'obéiront pas. C'est à chacun de prendre la décision pour lui-même. Mais on n'est pas dans l'armée. La loi, ce n'est pas une forme de service militaire. Et sûrement, vous vous souvenez, pendant les questions de Vietnam, questions de ségrégation, dans toutes sortes de situations, il y a eu des gens qui ont dit non. Est-ce qu'il va y en avoir? Ça dépend de la force de leur objection. Pour certains, ils vont enlever, n'est-ce pas? D'autres vont changer d'emploi. Mais il se peut qu'il va y avoir des gens qui vont dire non. Ce n'est pas inouï et ce n'est pas contraire aux règles de droit. C'est une des soupapes de sécurité, la désobéissance. Je viens de publier sur ce sujet, alors j'ai rien à voir avec la législation québécoise, simplement la philosophie de droit. La désobéissance est un des moyens extrêmes, on espère rares, mais pas impossible.
Mais vous ne les recommandez pas quand même?
Non, de toute façon, ça dépend de la conscience de chacun. C'est pas à moi de dire à quelqu'un ce que votre conscience vous empêche ou vous oblige à ne pas obéir. C'est une décision très personnelle, individuelle, morale. J'ai dit tout simplement que ça peut arriver. Je constate que ces choses-là arrivent. Je n'en fais pas la promotion. C'est pas une organisation de la désobéissance que je prône, mais plutôt une compréhension, j'espère, par le public, qu'il y a une limite de l'efficacité des lois, ce que les gens vont peut-être arrêter d'obéir. Un excellent exemple dans l'histoire du Québec, c'est comment le jury a commencé à acquitter le docteur Morgenthaler parce qu'il n'était pas d'accord avec la prohibition de l'avortement. C'était une décision de ne pas appliquer une partie du code criminel qui, quand même, était clairement prohibé la procédure, et pourtant, ils ont refusé. Donc, dans chaque nous avons chacun d'entre nous une conscience
ouais.
qui peut nous obliger, à un certain moment, de ne pas obéir. Moi, je peux vous dire où moi, je n'obéirais pas, coûte que coûte. Si je vivais dans un État aux États-Unis où il y a la peine de mort, j'étais obligé de collaborer. De quelque façon que ce soit, comme avocat, comme citoyen, je refuserais.
Alors ça, chacun s'impose ses propres limites à un certain point.
C'est pour chacun. Voilà. Moi, je sais où ouais. est la limite pour moi. La peine voilà. de mort, c'est la limite.
Monsieur Gray, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
C'est un plaisir.
Au revoir. Maître Julius Gray est avocat. Il est spécialisé dans les libertés individuelles. On s'en va à la pause. On revient tout de suite après. On va parler de l'état des routes au Québec. Alors ça, là, c'est un sujet éternel. On en reparle tout de suite après ceci.